Bien, nous allons commencer notre étude aujourd'hui dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 5 au verset 9. Et je voudrais étudier avec vous sur ce sujet une fausse piété. Ici, nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés et en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus. Ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. » Alors, nous avons ici un avertissement solennel concernant des gens qui ont une apparence, comme c'est écrit dans le verset 5, de la piété. Les gens aujourd'hui aiment parler de la piété et se présentent comme des hommes pieux, ou même dans ce cas, des femmes pieuses, parce qu'il faut reconnaître que dans la religion, la majorité des dirigeants sont des femmes dévouées à la religion et elles ont une apparence de la piété, mais non pas selon la vérité, ou bien comme c'est écrit ici dans le verset 5, reniant ce qui en fait la force. En anglais, nous avons un proverbe qui dit « Tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Alors, cela veut dire que quelque chose peut avoir une apparence d'être précieux, mais en réalité, c'est sans valeur. Et c'est comme ça dans la religion. C'est comme ça dans ce que les gens appellent le christianisme aujourd'hui. Ils prennent le nom de Christ et ils prétendent servir Christ, mais ce n'est pas une foi qui provient de Christ. Alors, la piété est un sujet que beaucoup professent posséder. Et il faut savoir que ce n'est pas ce que l'homme confesse ou professe qui vaut quelque chose, mais c'est ce que Dieu lui-même dit des hommes. Et nous savons cela déjà dans Matthieu chapitre 7, où Christ parlait de ceux de sa génération. Et il leur disait dans Matthieu 7 et le verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, qu'est-ce que la volonté du Père qui est dans les cieux pour ses enfants? C'est qu'ils se soumettent à Christ et à Christ seul. C'est qu'ils viennent à Christ et Christ seul, parce que c'est l'Esprit de Christ qui les attire. Et on peut reconnaître quelqu'un qui est véritablement dans la foi et pieux, parce que le mot pieux veut dire donner toute révérence à Christ seul. Voilà les seuls qui sont véritablement pieux. Ce n'est pas un habillement que nous portons devant les hommes et pour laisser savoir aux hommes que nous sommes enfants de Dieu. Non, c'est une grâce interne qui est donnée par l'Esprit de Dieu pour connaître Christ et arriver à une connaissance de la vérité. Alors, voilà ce qui importe. Ce n'est pas ce que les hommes disent de Christ, mais c'est ce que Dieu dit d'eux. Et beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs, Christ continue dans le verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voilà comment les gens aiment professer leur piété ou bien prétendent avoir une certaine piété. C'est répandu partout. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Se lever et prétendent parler de la part de Dieu, mais ce qu'ils disent est contraire à ce qui est écrit dans cette parole révélée. Si l'Esprit de Dieu est en train de transmettre le message de Christ à travers la bouche d'un serviteur, tout ce que ce serviteur dirait serait en relation exact avec ce qui est écrit déjà dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas agir d'une manière contraire à cette parole. Et c'est par là, je dois dire que quand j'entends beaucoup en train de prêcher, même au nom de Christ, et j'entends le Christ qu'il prêche, je constate que ce n'est pas l'Esprit de Christ qui est en eux, parce que ce qu'ils disent est contraire à ce qui est écrit ici. Vous savez qu'il y a un Jésus qui est prêché, il y a un Christ aujourd'hui qui est prêché, il y a un évangile que les gens disent qu'ils prêchent, mais ce n'est pas le Christ de la Bible. Le Christ de la Bible est souverain. Or, le Jésus qui est prêché populairement aujourd'hui est un Jésus qui est entre les mains des hommes. Pourtant, la Bible dit que c'est les hommes qui sont entre ses mains. Alors, nous devons toujours faire attention, nous devons toujours évaluer ce que les hommes disent par rapport à cette parole. Mais beaucoup prophétisent, comme c'est écrit dans Matthieu 7, 22. Et voilà, chasser des démons. Voilà ce que les hommes aiment, prétendent faire aujourd'hui, c'est chasser les démons. Alors, même dans cela, il y a beaucoup de prétentions. C'est une production que les gens font pour attirer davantage les gens à eux et à leur message. Et voilà ce que les gens veulent, comme nous sommes en train d'étudier dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 5 à 9, ce sont des gens qui aiment entrer dans les maisons et attirer des gens envers eux. Et dans ce contexte, surtout des femmes, ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Une autre manière de lire cela, c'est attirer des gens efféminés, des gens qui sont faibles de l'esprit. Voilà le sens de ce mot. Alors, ils sont facilement détournés. Mais voilà encore où nous devons faire attention, parce que ceux mentionnés ici dans Matthieu 7 et le verset 22, utilise ça comme une raison pour qu'il soit accepté devant Dieu. Et encore, les miracles, verset 22, « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Pourtant, voilà le verset 23, « Est-ce que c'est ce que l'homme professe qui importe ou bien c'est ce que Christ lui-même dit? » Je dois dire, c'est lui le juge. Et toute bouche sera fermée devant lui un jour. Et c'est pourquoi Christ dit ici dans le verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Notez comment c'est écrit. Ce n'est pas que je vous ai connu, mais après avoir fait une évaluation, maintenant je ne vous connais plus. Il dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Ceci en contraste avec ce que la Bible dit, que ceux qui sont à Dieu sont connus de lui depuis l'éternité. Ce mot « connaître », c'est un mot très intime. C'est utilisé de la relation entre le mari et sa femme, dans l'union de la chair connue. Mais ici, c'est dans le sens spirituel et éternel, intime. Je ne vous ai jamais connu. Le sens, c'est que ceux-là, Dieu ne les a jamais aimés. Voilà encore un contraste entre l'évangile et le message populaire des hommes qui veulent que Dieu aime tous les hommes sans exception. Mais cela contredit ce que dit la Bible, où Paul a écrit aux Romains, comme Dieu lui-même l'a dit, « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. » Dieu lui-même fait distinction dans sa souveraineté. Et si vous avez un problème avec un tel Dieu, vous avez un problème avec Dieu lui-même. Cela veut dire que vous êtes en rébellion. Et encore, quelle que soit la piété que vous présentez aux hommes, c'est une fausse piété. Notez encore dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, notre texte, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » La force de la véritable piété, cela veut dire une révérence pour Dieu. C'est la révélation de cette parole par l'Esprit de Dieu au cœur qui abaisse le pécheur, mais qui exalte Dieu et lui donne droit à tout ce qu'il fait. Les hommes veulent eux-mêmes avoir le droit de croire ou ne pas croire, mais tel n'est pas le droit de l'homme. L'homme laissé à lui-même, et c'est ça le sens de ce monde, ce mot réprouvé dans 2 Timothée 3 et le verset 8, ils sont corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Cela veut dire rejetés. Dieu les laisse à eux-mêmes, donc ils forment des idées qui sont contraires à la parole. Et tant que Dieu lui-même ne les a pas connus depuis l'éternité, et que Christ a payé leur rançon là à la croix, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils vont avoir peut-être un sens religieux, un comportement qui influence les hommes, mais pas Dieu. Parce que c'est écrit ici, Matthieu 7 et le verset 23, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quelle que soit la forme ou bien l'apparence de la piété, si ce n'est pas fondé sur Christ, à travers Christ, à cause de Christ et par Christ, à la gloire de Dieu, c'est une fausse piété. Alors voilà pourquoi chacun doit s'examiner pour voir si véritablement cette foi provient de Dieu ou bien c'est une foi qui provient de l'homme. Donc, revenons dans notre texte, dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 5 au verset 9. Voilà ce que nous allons constater. Quelles sont les caractéristiques que ceux-là possèdent qui prétendent avoir la piété? Une piété qui n'a qu'une simple apparence, mais qui renie ce qui en fait la force. Je vous dirai que ce qui en fait la force de la véritable piété, c'est trois choses. C'est d'abord le Père qui a choisi ceux qui lui appartiennent, et cela depuis l'éternité, et il aime cela avec un amour éternel. Ça, c'est pas pour tous les hommes. Donc, ce qui en fait la force, c'est l'amour de Dieu. Jean a écrit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas notre amour pour Dieu qui fait notre piété. Non, la force de cette piété, cette révérence pour Dieu, c'est le fait que lui-même, il nous a aimés. Alors, ça, c'est très important. Numéro 2, c'est l'œuvre de Christ qui en fait la force. Sans l'œuvre de Christ, tout tombe dans l'eau. Peu importe nos efforts et notre zèle pour nous approcher de Dieu, si Christ lui-même n'a pas payé notre dette, si Dieu ne nous a pas approuvés par le sang et la justice de Christ accomplis au calvaire, nous n'avons aucune raison de dire que nous sommes enfants de Dieu. La seule manière d'adorer Dieu et de lui donner la gloire, c'est à travers son Fils Jésus-Christ. Et la force qui fait cette piété, c'est fondée sur Christ et Christ crucifié. C'est tout. Voilà, c'est notre message. Pourquoi c'est notre message? Parce qu'il n'y a aucun autre fondement qui peut être fondé si ce n'est pas ce fondement de Christ et Christ crucifié. Et puis, troisièmement, ce qui fait la force, c'est l'esprit de la grâce qui révèle au cœur du pécheur la personne de Christ et son œuvre accomplie pour celui-là. C'est pas pour tous les hommes. C'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà le véritable esprit de Dieu. L'esprit de Dieu conduit le pécheur à Christ dans la repentance et la foi. Ce n'est pas une expression, une manifestation, une démonstration des œuvres qui influencent des hommes. Non, c'est un cœur régénéré par l'Esprit de Dieu qui en fait la force et qui amène le pécheur à adorer Dieu et à lui donner toute la gloire, la piété, c'est de se soumettre à Christ, à la gloire seule de Dieu, parce que le seul honneur que Dieu donne, c'est à son Fils et ceux qui sont en lui. Alors ça, c'est ce qui fait la force de la véritable piété. Mais quelles sont les caractéristiques alors de ceux qui prétendent avoir la piété, mais qui ne sont pas en réalité pieux? Comme je disais, ce proverbe en anglais que nous avons, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peut-être ça semble être de l'or pour les hommes, mais devant Dieu, il n'y a pas d'or si ce n'est pas l'œuvre de Christ. Il n'y a pas une bonne œuvre si ce n'est pas l'œuvre de Christ. Alors, la première caractéristique de ceux qui prétendent avoir la piété, c'est qu'ils ont des intentions égoïstes. Ça, c'est une motivation, le pourquoi des gens agissent. Et nous voyons ça dans le verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Ouais, s'introduisent. Ils sont pas conduits là par des motifs ou des mobiles qui sont purs et à la gloire de Christ, mais ils ont des intentions. Quand c'est écrit, ils s'introduisent dans les maisons, ils veulent dire dans les assemblées, parce que à l'époque, c'était dans les maisons que les gens se rassemblaient pour écouter la parole de Dieu et adorer Dieu. Alors, ils s'introduisent dans ces maisons avec une intention d'attirer des gens envers eux. Et voilà pourquoi je dis que ce sont des intentions égoïstes. Ce n'est pas pour la gloire de Christ. Si je trouve une assemblée qui se réunit à la gloire de Christ et je me joins à cette assemblée, c'est pour me taire comme un pécheur dans le besoin d'entendre la voix de Christ et non pas quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'entendre quelqu'un ouvrir cette parole et me parler de Christ. Voilà mon besoin. Le Sauveur, le Rédempteur et celui que Dieu lui-même a envoyé pour sauver les pécheurs, même les pires, parce que je reconnais par l'Esprit de la grâce de Dieu que c'est ce que je suis. Donc, je prends ma place et je m'assois et je suis attentif par la grâce de Dieu, contrairement à ce que nous lisons ici concernant cela dans le verset 8, étant corrompu d'entendement. Réprouvé en ce qui concerne la foi. Cela veut dire, il n'entre pas dans ces maisons, dans ces lieux de culte pour être instruit, mais plutôt pour diriger et pour mener une division, pour attirer des gens envers eux, avoir des disciples. Donc, ils ont des intentions égoïstes. Les apparences de la piété dans le grec signifie ayant une forme de piété. Donc, c'est une profession de l'évangile. Il se transforme en ange de lumière. Pourtant, en vérité, ils sont des représentants de mal. Et extérieurement, ils semblent être vraiment pieux. Voilà comment ils veulent se présenter. Mais leurs intentions est toujours égoïste. Alors c'est pourquoi nous devons faire attention. C'est le sens d'être des hypocrites. Voilà un synonyme qu'on peut utiliser. Où ils se donnent au formalisme. Quand ils prient, ils ont une apparence d'être vraiment en contact avec Dieu. Mais tout cela, c'est pour attirer davantage l'attention sur eux-mêmes. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur lui-même nous a mis en garde de telles personnes. Il dit dans Matthieu 6, et le verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. » Voilà la différence. Quelqu'un qui se réunir rien que pour l'adoration de Dieu à travers Christ, il ne fait pas pour être vu. C'est quelqu'un qui est simple et humble par la grâce de Dieu, mais ceux-là aiment pratiquer leur justice devant les hommes pour en être vu. Et Christ dit, gardez-vous de cela. Verset 2, il donne un exemple. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Il y avait des boîtes devant leur synagogue où si quelqu'un voulait donner quelque chose aux pauvres, il sonnait la trompette devant lui afin d'attirer une foule et puis maintenant donner la somme. Tout cela, Christ dit, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais comme c'est écrit ici, afin d'être glorifié par les hommes. Voilà ses intentions égoïstes. Et Au départ, peut-être on ne voit pas ça parce qu'il donne l'apparence d'être humble, de la manière qu'il se présente, mais au fur et à mesure qu'il gagne de l'importance dans ses assemblées, on voit que ce n'est pas pour la gloire de Christ, mais d'être glorifié des hommes. Et dans la prière, verset 5 de Matthieu 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, encore pour être vus des hommes. Voilà l'intention égoïste, pour être vu des hommes et non pas pour la gloire de Dieu. Alors, ça, c'est la première caractéristique que nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 3, ici, le verset 6, concernant ceux qui prétendent posséder la piété, mais c'est une fausse piété. Deuxièmement, nous reconnaissons de telles personnes par le fait qu'ils rejettent les Écritures pour leur propre fin. Cela veut dire qu'ils ont un objectif eux-mêmes qu'ils veulent accomplir, et peu importe ce que disent les Écritures, ils agissent à cette fin. Et ici, c'est écrit à qui et qui captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Et nous voyons ça dans la religion aujourd'hui. Quand c'est écrit qui captive des femmes, dans le grec, c'est écrit qui mène en captivité des femmelettes. Voilà le sens. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement des femmes, mais des gens qui agissent comme des femmelettes. C'est une façon d'exprimer du mépris des femmes ou des personnes à l'esprit faible et borné. Et nous savons que ce sont des gens que cela amène toujours comme des disciples. Ils ne sont pas fondés sur une véritable révélation de Christ à travers la parole de Dieu. Mais ils ont un esprit borné dans le sens qu'ils ne peuvent pas entendre ce qu'ils amènent auprès d'eux. Et ce sont des gens comme eux qui sont corrompus d'entendement, qui sont éprouvés en ce qui concerne la foi. Et je dois dire que Dieu, dans sa souveraineté, se sert de telles personnes pour faire déchiffrer, si vous voulez, le blé de la paille, afin que ça soit connu. Parce que ceux qui vont quitter et suivre de telles personnes, c'est qu'ils n'étaient jamais, ils ne faisaient jamais partie du véritable corps de Christ. C'est pourquoi ils sont partis, ils sont quittés. Et Dieu, dans sa souveraineté, fait cela. Dans la première épître de Jean, il dit cela dans le verset 19 du chapitre 1, commençant dans le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et nous avons vu ça dans 2 Timothée, chapitre 3, et le premier verset. La dernière fois, sache que dans les derniers jours, alors nous savons que nous sommes dans les derniers jours. Ici, Jean dit, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Voilà, le monde cherche à savoir qui est l'antéchrist, pensant que c'est un seul homme. Mais ici, il dit, il y a maintenant, ça c'était au premier siècle que Jean écrivait cela, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Et verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, nous devons même nous soumettre à la volonté de Dieu, même dans nos assemblées, lorsqu'il y a des gens qui entrent, comme mentionné ici, et qui détournent certaines personnes, et ceux-là sortent du milieu de nous pour aller suivre ces hommes qui ont une apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Cela veut dire qu'ils ne sont pas fondés sur le véritable évangile. Il faut les laisser partir, parce que Dieu, dans sa souveraineté, est en train de nous faire, si vous voulez, une faveur, de nous aider à voir ceux qui sont en lui et ceux qui ne sont pas en lui. Nous ne devons pas poursuivre les gens qui quittent de cette manière. Mais nous devons nous éloigner d'eux. C'est pourquoi Paul dit ça à Timothée dans 2 Timothée 3:5. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous ne devons pas nous associer avec eux. Nous ne devons pas imaginer que nous pouvons compromettre le message de Christ pour avoir une certaine fraternité avec eux. Non, il faut les laisser partir. Mais cela attire de telles personnes parce qu'ils rejettent les Écritures pour leur propre intérêt. Ce n'est pas cette parole qui les intéresse, mais c'est des hommes. Ils veulent, comme les politiciens, avoir des disciples, des gens qui les suivent, peu importe ce que dit la Bible. Et alors, c'est pourquoi c'est écrit qui captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Il ne s'agit pas là dans le sens physique. Cela veut dire que ce ne sont pas des hommes nécessairement, quand c'est écrit qui captive des femmes, ce n'est pas de se livrer à la souillure avec de telles femmes, mais ils captivent, notez, leur esprit pour parvenir à leur fin. Il y a un exemple de cela dans Actes chapitre 13 et le verset 50. Actes chapitre 13 et le verset 50. Dans le verset 49, on peut même monter jusqu'au verset 48 où les Juifs rejetaient le message des apôtres que Paul prêchait aux Juifs. Ils rejetaient ce message-là, mais les païens, cela veut dire les non-Juifs, verset 48, se réjouissaient en entendant cela, en entendant le message de Christ et le salut en lui. Et c'est écrit, il glorifiait la parole du Seigneur. Voilà encore ce qui fait la force de la piété. C'est l'œuvre de l'Esprit qui témoigne au cœur des pécheurs élus par le Père et pour qui Christ est mort. Et il glorifiait la parole du Seigneur. Et notez, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça ne dit pas tous ceux qui crurent étaient alors destinés à la vie éternelle, comme si c'était leur croyance qui était la base de leur salut. Non, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, voilà ce qui fait la force de cette piété, ce que le Père lui-même a ordonné, cru. Et c'est écrit, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais, chaque fois que vous voyez dans les Écritures, mais, cela veut dire une distinction. Vrai, il y a ceux que Dieu a ordonné qu'ils soient sauvés, c'est selon son dessein, C'est à cause de l'œuvre de Christ et c'est l'Esprit qui révélait en cela qui croit. Mais les Juifs, notez, excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution entre Paul, contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Alors c'est de cette manière que nous lisons ici, entrant dans les maisons, entrant dans les lieux du culte, ils suscitent une révolution, si vous voulez, contre non seulement le message pur de la grâce de Dieu, mais les prédicateurs qui annoncent ce message, mais en fait, en réalité, c'est une rébellion complète contre Christ, qui est l'objet de la foi. Mais il y a des gens d'un esprit agité, ou bien faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Tout ce qui est dans ce cœur inconverti est contre la grâce de Dieu. Ce cœur dirigerait des hommes dans le sens des œuvres chaque fois, si ce n'est pas Dieu lui-même dans sa grâce qui empêche la réalisation de la fin, ou bien de cette voie où ça termine, et intervient dans sa grâce pour enlever ces pécheurs-là choisis et les amener à Christ. Autrement, nous serions tous, comme mentionné ici, des hommes réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc, ils rejettent les Écritures pour leur propre intérêt. Troisièmement, ce que nous voyons, encore, nous sommes en train de voir les caractéristiques de ceux qui professent avoir la piété, mais en fait, c'est une fausse piété. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils ont une certaine zèle pour Dieu. Ils sont zélés, mais sans intelligence spirituelle. C'est écrit ici dans le verset 7 de mon texte, 2 Timothée 3, 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il y a certains qui disent qu'il s'agit là des femmes qui sont faibles et bornées, mais je crois quand on lit la suite, c'est une expression concernant les hommes qui s'introduisent. Donc, on peut dire les deux, ceux qui les suivent et ceux-là qui entrent dans les maisons, qui s'introduisent dans ces milieux pour attirer après eux des gens qui sont corrompus d'entendement, eux-mêmes étant corrompus d'entendement. Ils ont ce zèle pour les choses de Dieu, ils semblent, mais en fait, ce n'est pas de Dieu. C'est de ça que Paul écrit dans Romains chapitre 10. Et le verset 2, c'est écrit, « Je leur rends le témoignage, Paul dit, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » On peut dire que c'est synonyme avec ce que nous voyons ici, « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ce qui en fait la force, c'est l'Esprit de Dieu qui donne de l'intelligence pour connaître Dieu en vérité. C'est sa grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais ceux-là ont un certain zèle pour Dieu, mais sans l'intelligence, ne connaissant pas, notez bien verset 3, la justice de Dieu, Romains 10, 3, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Peu importe la piété externe que ces hommes peuvent avoir, si dans leur esprit et leur cœur, ils ne sont pas soumis à la seule justice de Dieu qui est en Jésus-Christ, quand on parle de la justice de Dieu, ça c'est un terme légal. C'est un terme qui déclare comment les pécheurs peuvent être justes devant Dieu. Il n'y a qu'une seule justice de Dieu, c'est la justice que le Saint Jésus-Christ lui-même est venu accomplir à l'égard de ce que le Père lui a donné. Mais ceux-là ont un certain zèle et ils ont leur propre justice. Notez la manière que c'est écrit dans le verset 3. Mais une justice propre, cela veut dire que l'homme lui-même développe, n'est jamais accepté devant Dieu parce que la justice de Dieu exige une obéissance parfaite. Et la seule obéissance parfaite qu'on a jamais vue dans le monde, c'est cette obéissance que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a accomplie par sa vie et par sa mort pour ceux que le Père lui a donné. Et c'est pourquoi c'est écrit dans le verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Ce n'est pas la croyance qui est la base de notre justification devant Dieu. Non, ça c'est l'œuvre de Christ. Mais on peut reconnaître les véritables croyants par ceci, c'est que Christ est la fin de la loi pour leur justification. Ils ne sont pas en train de parler de leurs propres œuvres, mais de l'œuvre de Christ. Il n'y a qu'une seule bonne œuvre, et c'est l'œuvre que Christ a accomplie. Alors quand je m'assois pour écouter quelqu'un prêcher, je veux savoir de quelle justice il parle. Est-ce que la justice de Dieu que Christ lui-même est venu accomplir, ou bien c'est quelqu'un qui prêche ce que l'homme doit faire? Alors, il ne faut pas qu'on soit trompé en voyant des hommes zélés pour Dieu, parce qu'il y en a beaucoup dans le monde. Ils sortent, ils vont dans les rues, ils mènent les campagnes, ils font tout cela au nom de Dieu, même utilisant le nom de Christ. Mais s'ils ne prêchent pas le salut par Christ et Christ seul, à la gloire de Dieu seul, sans dépendre de l'homme ou ses œuvres, donc c'est une fausse piété, c'est un faux évangile et c'est un autre Christ qui est prêché. Et nous voyons avec quelle sévérité l'apôtre parle ou écrit ici à Timothée en disant qu'ils ressemblent à, comme c'est écrit dans le verset 8, de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse. Il ne faut pas qu'on soit trompé par leur zèle, ce sont des opposants à la vérité. Et ça, c'est la quatrième caractéristique, alors, de ceux qui ont cette fausse piété. Ils s'opposent toujours à la vérité. Si vous voulez vous rappeler de Jannès et Jambrès, c'est quand Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon, dans Exode chapitre 7, et Dieu a donné certains signes à Moïse pour démontrer par quelle autorité il disait à Pharaon, imaginez, le roi d'Égypte, de laisser partir le peuple d'Israël. Et voilà Moïse qui a grandi dans ses cours et qui revenait maintenant pour dire qu'il représentait maintenant ce peuple juif qui était encore dans l'esclavage, mais que Dieu allait les faire sortir. Alors, nous voyons dans le verset 11, Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. C'est pourquoi nous ne devons pas aujourd'hui nous fier de ceux qui font des miracles. Les gens sont facilement attirés par ces choses, mais il faut dire que c'est comme la magie. Qui n'a pas vu une démonstration de la magie et se demander, mais comment ils ont pu faire cela? Il y a de la tromperie dedans. Et nous voyons ça. En firent autant par leur enchantement. Ces hommes ont pu imiter les signes que Dieu a donnés à Moïse. Et cela avec raison. Dieu était même en cela pour que la confiance des enfants d'Israël ne soit pas dans les signes ou dans les miracles, mais plutôt en Christ que Moïse représentait. C'est écrit dans le verset 12, « Ils jetèrent tous leurs verges et elles devenèrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. » Mais c'est écrit, « Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. » Vous voyez même là l'endurcissement de Pharaon et même ses enchanteurs, comme ici c'est mentionné, de même que Jannès et Jambré, ils étaient des gens enchanteurs dans les cours de Pharaon, s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes, notez, s'opposent à la vérité. Voilà le point clé. Ils ont une apparence de la piété, mais en fait, ils s'opposent à la vérité. C'est parce qu'ils sont corrompus d'entendement. Si vous voulez savoir qui sont de tels hommes, il suffit de se lever et prêcher ce Christ dans leur milieu. Et ça ne prendrait pas beaucoup de temps avant que vous ne voyez maintenant cette même rébellion. Je l'ai vécu, je sais que certains d'entre vous l'ont vécu en passant dans certaines assemblées où vous étiez invités. Je n'entre pas moi-même dans des assemblées pour aller essayer de m'introduire comme ceux-là font. Je ne fais que aller là où le Seigneur ouvre les portes, mais je peux vous citer pas mal d'exemples qu'une fois arrivé et me lever maintenant pour annoncer le message de l'Évangile à la seule gloire de Dieu, avoir maintenant une réaction de ces gens-là qui s'oppose, mais ce n'est pas à moi qu'il s'oppose, mais c'est à Christ. C'est au Christ que je prêche. C'est pourquoi je n'ai pas autre message que Christ, parce que si je veux aller dans le sens que ceux-là vont, en essayant d'avoir l'approbation des hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Mais l'esprit de Christ qui est en moi ne me permet pas d'aller dans ce sens. L'esprit de Christ me pousse à annoncer Christ seul et Christ crucifié. Mais l'intention de cette comparaison que Paul fait ici avec ceux-là au temps de Moïse, c'est en vue de leur résistance à la vérité. Et encore, imitant les formes, c'est comme la fausse piété, c'est une imitation de ce que Dieu fait, mais comme les magiciens d'Égypte résistaient à Moïse en imitant les miracles et les prodiges de mensonges, de la même manière les gens font aujourd'hui. Ils s'opposent toujours à la vérité. Ceux qui veulent simplement entendre prêcher les miracles ou voir des prodiges, ils sont toujours dans les ténèbres. Ils ont, comme c'est écrit ici, un entendement corrompu. Donc, ça m'amène maintenant à la cinquième caractéristique. J'ai dit qu'il y a plusieurs, nous avons six ici, mais la cinquième, c'est alors qu'ils sont réprouvés. Voilà ce que nous pouvons dire. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Réprouvé veut dire rejeté. C'est comme dans le sens de l'or, Une fois miné, on prend l'or et puis on chauffe. Et tout ce qui n'est pas de l'or monte à la surface et puis c'est enlevé et c'est l'or pur qui reste. C'est comme ça que Dieu fait son œuvre. La foi est un don de Dieu. La foi est une persuasion que Dieu donne au pécheur qu'il a choisi, pécheur qu'il aime depuis l'éternité pour qui Christ est mort. Cette foi se repose sur Christ et Christ seul. Ce n'est pas une œuvre que nous produisons. C'est souvent comment la foi est prêchée, quelque chose que vous allez maintenant faire pour être accepté de Dieu. Ceux qui raisonnent de cette manière sont réprouvés en ce qui concerne la foi, parce que la véritable foi vient de Dieu et Dieu seul. Et puis, la dernière caractéristique qui résume, si vous voulez, le tout, c'est qu'ils sont perdus. De telles personnes sont perdues et une fois réprouvées par Dieu, ils ne peuvent jamais venir à Dieu pour être sauvés. C'est écrit dans le verset 9, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Il parle de Jannès et Jambrès qui sont finalement, comme on a lu, la verge d'Aaron a englouti leur verge. Dieu a démontré sa domination sur même ce que les hommes faisaient, sa souveraineté. Et les hommes qui sont réprouvés, même si peut-être pour un temps ils sont exaltés aux hommes de Dieu, Dieu, dans sa sagesse, dit que le jour viendrait où éventuellement ils seront exposés pour ce qu'ils sont. Ils sont perdus et ils ne feront pas de plus grand progrès. Nous savons que la fausse religion est toujours avec nous dans le monde. On ne peut jamais l'enlever du monde. Et on doit toujours savoir que si nous prêchons l'évangile de Christ par la grâce de Dieu, nous aurons de l'opposition. Même comme Moïse, même comme Timothée et Paul, ils devaient en faire face, mais Dieu est souverain. Et nous savons que tous ceux qu'il a choisis depuis l'éternité, pour qui Christ est mort, il ne perdra aucun de cela. Et c'est pourquoi nous devons, par la grâce de Dieu, continuer à être fidèles à prêcher l'évangile, parce que c'est le seul évangile que Dieu bénit pour le salut de son peuple. Et voilà ce qui m'intéresse. C'est pas tout le monde, mais ce que le Père lui-même a choisi pour qui Christ est mort. Qu'à travers le message fidèle de Christ, prêché, annoncé, ceux-là seront éclairés, seront régénérés et attirés au Seigneur Jésus-Christ dans le temps voulu par Christ lui-même.